le Comité international olympique a simultanément élu la ville hôte de jeux de la 33e Olympiade en 2024 et la ville hôte des jeux de 34e Olympiade en 2028. Paris 24, Los Angeles 28.
Bonjour à tous. Le Comité international olympique réuni à Lima, au Pérou, vient de désigner Paris pour accueillir les Jeux de l'été 2024. Un retour dans le pays de Pierre de Coubertin, juste un siècle après les derniers Jeux en France. Pourtant, les opposants au projet sont nombreux et argumentent sur le coût jugé prohibitif, sur l'intérêt de la manifestation, son empreinte écologique, voire sur la philosophie de ce qu'est devenu le mouvement olympique. En face, les partisans avancent un probable gain de croissance économique, le côté fédérateur de l'événement, son coût finalement raisonnable puisque la plupart des infrastructures existent déjà. Bref, les positions sont tranchées et le débat animé. Du coup, nous sommes allés voir ce qui reste des Jeux dans trois villes qui les ont accueillis au XXIe siècle. Que reste-t-il des Jeux de 2012 à Londres, de ceux de 2008 à Pékin, de ceux de 2004 à Athènes ? On commence sur les pas de Béatrice Duguay dans la capitale grecque, le berceau de l'olympisme.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il y a 3000 ans.
3000 years ago.
Ολυμπία.
Αρχαία Ολυμπία.
Ο πρώτος αθλητής έτρεξε. Le premier athlète court.
The first athlete ran. The race began.
Πολίτες του κόσμου, καλώς ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας.
Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce.
Athènes, c'est le berceau des Jeux Olympiques modernes. Ici, avant 2004, bien sûr, il y a eu 1896. Et il reste ici des traces très vivantes, ma foi, de ces premiers Jeux de l'ère moderne. C'est là que Dimitrios Makairidis nous emmène. Dimitrios, qui est notre guide en plein centre-ville d'Athènes.
Alors, Zappa, c'était les deux frères qui ont financé la construction des Appions. C'est la maison des Zappa, si vous voulez. Ici, on avait installé la Comité des Jeux Olympiques pour les premières Jeux Olympiques en 1896. Et on a en face de nous l'Acropole et le Temple de Zeus. C'était la ville construite par l'empereur Hadrian. Et de l'autre côté, c'est le Stade Olympique.
Qu'on va aller voir.
Ouais. Qu'on va aller voir, oui. Ces stades existaient depuis l'Antiquité. Hein.
Ah voilà, le stade.
Et Olympiako Stadio, c'est son nom officiel, mais chez nous en grec on dit Kalimarmaron parce que ça veut dire du marbre de très bonne qualité. Donc, on va voir le stade et par là on va monter par l'escalier pour arriver un peu derrière. Et elle peut accueillir ce stade 60 000 personnes.
Oui, ça paraît pas comme ça, mais c'est effectivement immense, et puis c'est très beau, ça a une classe folle, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, c'est parti pour la grimpette, pour monter tout en haut du stade historique, avec un petit chemin, des escaliers bordés de figuiers, et voilà, c'est parti.
On a accueilli ici, en 2004 aussi, la compétition de tir à l'arc. Alors ici, on est au premier village olympique des Jeux olympiques modernes. Et là, c'est... Comment on dit là, on changeait les athlètes.
Sans
les
vestiaires.
Les vestiaires. Celui-là, c'était les vestiaires. Et bien par là, il y a... Parce que la plupart des gens ne savent pas, même en ville, même ici à Athènes, ils ne savent pas que le premier village olympique, c'est celui-là.
1896, on est d'accord.
Oui.
Ah, l'Acropole, juste en face.
Alors, on a une très belle ville de l'Acropole par là.
Est-ce qu'il y a encore des compétitions ici ou plus du tout, non, on disait tout à l'heure.
Non. On utilise plutôt ces stades pour des concerts et pour des manifestations, si tu veux, et pour des fêtes. Et c'est ici, tous les 4 ans, qu'on amène les fêtes olympiques des Olympiades à Athènes. Et la cérémonie pour offrir les fêtes pour la ville qui va organiser les Jeux Olympiques, ça se passe toujours ici dans ce stade.
Giorgios Ganotis, on est ici dans votre bureau, donc au centre-ville d'Athènes. Vous êtes aujourd'hui avocat et vous avez été un membre très actif dans la conception de ces Jeux Olympiques ici à Athènes en 2004. Expliquez-nous.
De 1996 jusqu'à 2004, j'étais secrétaire général auprès du ministère des Travaux publics, responsable pour les grands projets d'infrastructure. Par exemple, l'aéroport d'Athènes, la périphérique d'Athènes, on appelle Attiki Odos, et aussi pour le métro d'Athènes. Tous ces projets étaient déjà programmés en avant, mais si vous voulez, les Jeux Olympiques ont accéléré un petit peu tous ces projets. Tous ces projets ont changé l'image de la ville et le bénéfice pour les citoyens, surtout athéniens, était formidable. L'infrastructure pour le transport est vraiment très utile. Ça que je peux dire que l'État grec n'a pas eu une continuation, c'est les projets d'infrastructure athlétique, c'est-à-dire les stades. Malheureusement, à cause de la crise économique mondiale tout d'abord, et après la crise économique en Grèce, on n'a pas eu les ressources propres pour garder toute cette infrastructure athlétique à un niveau pour être vraiment utile pour les athlètes, pour l'athlétisme en Grèce, etc. À l'époque, le budget n'était pas excessif à l'époque, mais la crise économique qui a suivi cet grand investissement donne maintenant des résultats négatifs.
L'eau s'est arrêtée devant ce grand centre commercial. Ce qui est aujourd'hui un grand centre commercial d'Athènes, eh bien, c'était en fait auparavant, en 2004, le centre de presse, gigantesque endroit. Il y avait des locaux, il y avait de l'espace et pour le coup, ça a été reconverti en espace commercial. Que reste-t-il des Jeux Olympiques dans Athènes ?
Πιστεύω ότι ήταν μια προβολή σίγουρα για τη χώρα και σίγουρα βοήθησε και.
Je pense que les Jeux Olympiques ont assuré la promotion du pays. Des touristes sont venus, ils ont dépensé pour se loger, pour manger, ils ont pu visiter la Grèce. Plein de gens qui n'avaient jamais mis les pieds chez nous. À mon avis, ça a été une bonne chose.
Petros Sinadinos, architect, CEO de Athens 2004, 1.5 years. Εγώ συνήθως λέω ότι τα οργανωτικά.
Tout ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques, c'est plus simple. Parce que le CIO aide.
Οι οποίοι έρχονται με χιλιάδες επαγγελματίες.
Il arrive avec des milliers de professionnels, sociétés, télévision, des équipes spécialisées, avec les sponsors. Donc l'organisation est facile.
Το πιο δύσκολο είναι αυτό που λένε post-olympic.
Ce qui est difficile, c'est l'utilisation post-olympique des installations sportives.
Pourquoi c'est difficile?
Είναι δύσκολο γιατί
C'est difficile parce qu'aucun pays ne dispose de ce qu'il faut pour organiser les Jeux pendant 15 jours, alors qu'il faut 40 ans pour que tout soit rentable. Certains pays disposent déjà d'installations, mais d'autres partent de zéro.
Le plus important thème de l'Olympique Agon est l'Olympique Chorio. 3000 appartements.
Le sujet le plus important des Jeux Olympiques, c'est le village olympique. 3000 appartements.
Beaucoup de logements.
Comment comparer Paris ou Los Angeles, qui ont déjà des endroits prêts, ou des cités universitaires avec Athènes ou Rio, qui ont été obligés de construire les villages olympiques de toutes pièces?
Est-ce que néanmoins, Petros Sinadinos, les Jeux olympiques ont suscité des vocations d'athlètes? Est-ce que des générations de sportifs sont nées de ces Jeux olympiques-là?
Brièvement, après la fin des Jeux, oui. Ensuite, la crise est arrivée.
Calicéa, sud d'Athènes, près de la mer, entre le stade de foot de l'Olympiakos et puis le nouveau centre culturel Niarchos. Plusieurs complexes ont été construits là, tout exprès pour 2004. Il y a le stade de beach volley qui est en déshérence aujourd'hui. Il y a ensuite une longue travée de locaux en rez-de-chaussée qui n'est pas très utilisée non plus. Et puis à l'autre bout, à ma gauche, il y a le complexe qui a abrité les compétitions de handball et de taekwondo, sous-utilisé aujourd'hui, ce qui met en colère Pinilopi Kouyanou, qui est architecte et qui a été collaboratrice aussi de son frère Yanis, lui-même ingénieur civil, qui a dessiné le système aquatique de l'installation de canoë-kayak à Hellinikos. Calimera.
Il n'y avait pas de projet démontable à Athènes en 2004 parce que ça ne correspond pas à la mentalité grecque. Les politiques comme les habitants. Les Grecs n'imaginent pas dépenser de l'argent pour quelque chose qui sera temporaire. Ils pensent à bâtir avec du béton, parce que du moment que la construction est en dur, elle est là et on l'utilisera bien un jour. Regarde par exemple le complexe de taekwondo derrière nous. Une construction énorme. Au lieu d'être une installation à la capacité voulue par le CIO, mais qu'on aurait pu redimensionner, ou même qu'on aurait pu démonter carrément. Au lieu de ça, on a construit un bâtiment énorme qui coûte trop cher à entretenir. On l'utilise de manière très épisodique, pour des concerts, des congrès. Et tu vois comment il est? Son coût de maintenance est tellement prohibitif qu'il ne sera jamais rentable ni viable pour l'État.
Est-ce que c'est aussi un peu à cause de la crise qui a durement frappé la Grèce derrière?
Certains disent que les Jeux olympiques ont contribué à la crise grecque parce qu'ils ont laissé beaucoup de dettes à l'État grec et aux entreprises, des dettes qui se sont répercutées en cascade de l'État aux entreprises et du privé au public. Mais je suis convaincue que la crise a été provoquée par cette logique générale de dépenses, des constructions énormes, en dur.
Dimitrios Markaidis, mon guide ici à Athènes. Nous sommes arrivés à Galatzi, l'une des communes d'Athènes, pas très loin du complexe olympique. C'est là qu'ont eu lieu en 2004 les épreuves de gymnastique et de tennis de table notamment. Le complexe est désaffecté, en cours de reconversion. Bref, on a rendez-vous avec le maire ici pour voir un petit peu où tout cela en est. C'est un lieu qui a servi de lieu d'hébergement également pour des réfugiés il y a peu de temps de cela.
Markopoulos Giorgos, Dimarchos Galatzios.
Markopoulos Giorgos, je suis le maire de Galatzi.
Aujourd'hui, ici, on va pouvoir faire quoi?
Από τη στιγμή που έχουμε καταφέρει να είναι βιώσιμο ευθύς εξ αρχής, δηλαδή να μην επιβαρύνουμε τον κάθε ένα δημότη με το κόστος αυτής της εγκατάστασης.
Du moment que l'installation est viable, qu'elle ne pèse pas sur le budget de la ville et des habitants, et du moment qu'on est capable de jouer au basket, d'accueillir des femmes qui font de la gymnastique, de la sculpture, peinture, photo, vous allez voir que cette opération est un succès. Et ça devient un exemple pour les autres installations fermées, abandonnées. Et je considère que c'était la meilleure manière de montrer qu'on pouvait faire quelque chose. Et je suis sûr que la concession de l'État se poursuivra après 2020. Tout est gratuit pour les habitants de la commune. Et l'opération devient profitable grâce à l'allocation de salles pour ceux qui veulent organiser des événements sportifs ou culturels. Et les salles auxiliaires sont louées aussi aux sociétés de production de télévision. Ça rapporte 60% à la municipalité et 40% à l'État.
Merci, monsieur le maire.
France Inter. C'est le mercredi 6 juillet que le Comité international olympique fera connaître à Singapour son choix. On saura alors quelle sera la ville qui organisera les Jeux olympiques de 2012. Mais avant 2012, il y a 2008, et là, c'est Pékin qui organisera les Jeux. Moment fort et symbolique aujourd'hui avec la pose de la première pierre du village olympique à Pékin, Eric Meyer.
Le village des Jeux de Pékin s'étalera sur 66 hectares au nord de la ville et doit matérialiser la promesse chinoise de Jeux les plus verts de l'histoire olympique moderne. Il sera autonome en termes de chauffage et d'électricité, assuré à 100% à partir d'énergie renouvelable. 46 tours vont se dresser pas trop hautes, 6 à 9 étages maximum. Une clinique, des restos et magasins dernier cri et bien sûr tous les gymnases, piscines et pistes de jogging imaginables. Au nord, une forêt aux essences rares et mondiales sera transplantée. Sortie de rien, tout ce monde magique sera prêt dès fin 2007, tiré du chapeau à coups de milliards de dollars généreusement distribués, sauf peut-être aux paysans expropriés qui se plaignent de l'enveloppe. Éric Meyer, Pékin, France Inter.
En Chine, les Jeux de 2008 étaient supposés donner un nouvel élan à la croissance et surtout une meilleure image internationale du pays. Et les autorités chinoises se targuent volontiers de la réussite du rendez-vous, à tel point que la Chine s'est vue confier l'organisation des Jeux olympiques d'hiver pour 2022. Retour au stade olympique Le Nid d'Oiseau avec Dominique André.
Le 8 août 2008, à 8h08, quand retentit dans le stade olympique le célèbre chant patriotique chinois « Chantons la mère patrie », la Chine affiche avec fierté sa puissance retrouvée. Mais à quel prix ? Le budget s'est envolé à 32 milliards d'euros, dépassant de 1130%, soit 12 fois ses prévisions. Une grande partie du budget, à 80% en public, est passée dans les infrastructures. 37 sites accueillent les Jeux du 8 au 24 août, dont 31 rien qu'à Pékin. Presque 10 ans plus tard, le fameux nid, le stade national, dont la forme rappelle celle d'un nid d'oiseau, impose sa silhouette dans le ciel pollué de Pékin. Il est l'un des sites les plus fréquentés par les Chinois. Un millier d'employés travaillent à l'entretien des pelouses, de la structure, sous les ordres d'une équipe de choc qui se démène pour remplir un stade qui peut accueillir plus de 80 000 personnes.
Je m'appelle Li Jichun, je suis le directeur adjoint du Stade National et le porte-parole de la société du Stade National. Après la fin des Jeux Olympiques en 2008, le nid est entré dans sa phase d'exploitation marketing. Nous assurons toute la gestion du stade, nous avons une centaine d'employés permanents au sein de notre équipe. Notre mission, c'est de programmer des activités dans le stade. Après les Jeux Olympiques, il n'était pas possible de tenir le rythme des grandes compétitions chaque année. Entre les Jeux Olympiques de 2008 et les JO d'hiver en 2022, nous devons organiser les activités nous-mêmes ou bien collaborer avec d'autres sociétés.
Quel type de compétition vous organisez au Nid d'Oiseau ?
Nous avons quatre sortes d'activités. La première, ce sont les compétitions sportives. C'est l'activité la plus importante car à la base, nous sommes quand même le stade national. Donc, organiser des compétitions sportives est notre principale mission. Par exemple, en 2015, nous avons accueilli les championnats du monde d'athlétisme, la Supercoupe d'Italie de football en 2012, même des compétitions sur neige artificielle ou des compétitions automobiles comme la Race of Champions. Certaines compétitions sont organisées régulièrement au stade olympique.
Thank you.
Notre deuxième grande activité, ce sont les concerts avec des stars de la pop musique chinoise et des spectacles de divertissement, des shows. Ces soirs-là, on peut avoir 80 000 spectateurs. Il y a aussi des productions étrangères qui viennent en tournée en Chine et qui passent au stade. Et puis l'hiver, comme il fait très froid à Pékin, on organise des activités sur la neige pour vulgariser les sports d'hiver. On reçoit plus de 200 000 personnes pendant la saison froide. Beaucoup d'enfants ont appris à skier et à patiner au nid d'oiseau. C'est positif, c'est très bien pour populariser les prochains Jeux d'hiver de 2022.
Est-ce qu'en 2017, le stade est devenu rentable ?
Ce bâtiment est très grand, il demande un entretien énorme. Le nid a besoin d'eau, d'électricité, de gaz, de personnel de nettoyage, de sécurité. Nous avons beaucoup de dépenses. Chaque année, il y a environ 200 millions de yuan de frais, soit près de 28 millions d'euros. Les rentrées sont presque équivalentes aux dépenses. Et depuis 2014, depuis 3 ans, on est même un peu bénéficiaire. Le fonctionnement des installations après les JO est une grande préoccupation au niveau mondial. Au NI, nous avons fait beaucoup de recherches sur les expériences des autres à l'étranger et nous avons beaucoup appris. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés d'exploitation des stades étrangers viennent nous voir pour apprendre à leur tour. On a reçu des Japonais, des Coréens, des Brésiliens et plusieurs pays d'Afrique.
La Chine voulait donc marquer les esprits avec des édifices audacieux. Le nid est l'œuvre des architectes suisses Jacques Herzog et Pierre Demeron. Li Xinkang, en 2008, a travaillé avec eux. Il était l'architecte en chef de l'équipe chinoise et il a beaucoup appris. Depuis, il a été propulsé responsable du design du site de Yangting dans le nord-est de la Chine, où auront lieu des épreuves de ski alpin et de luge pour les JO de 2022. L'un des défis, c'était de fondre les sites olympiques dans le paysage au fur et à mesure de la croissance d'une ville qui atteint aujourd'hui les 24 millions d'habitants, nous rappelle Li Xinkang.
Avant les Jeux de 2008, cette zone faisait partie des nouveaux quartiers nord de Pékin. Dans le prolongement de la vieille ville. Le stade, c'est comme un point lumineux au nord, un repère dans la capitale. Le nid n'est plus seulement le stade principal des Jeux Olympiques. Il est devenu un lieu public important dont la mission est de faire profiter les gens au maximum chaque jour. Il fonctionne très bien. C'est un cas rare parmi les stades des Jeux Olympiques dans le monde. Dans sa conception, les architectes l'avaient pensé avant tout comme un espace public au sein de la cité.
Presque 10 ans après sa construction, est-ce que le nid d'oiseau a trouvé sa place dans la ville ?
Sa relation avec les habitants de Pékin est fusionnelle. Il s'est fondu dans la ville. Il n'apparaît plus comme étant un site dans un nouveau quartier. À l'époque, son coût de construction a fait l'objet d'une grande controverse. Il va être réutilisé pour les prochains Jeux d'hiver en 2022. Il y aura des compétitions sur glace et sur neige dans une dizaine d'infrastructures des Jeux de 2009 qui ont été gardées pour les Jeux de 2022 et qui vont être transformées. Cela s'inscrit dans nos objectifs de développement durable.
Autrefois ville horizontale avec ses ruelles et ses cours carrées, Pékin est devenu pour les Jeux une ville métamorphosée où se dresse sur toute sa superficie, buildings, gratte-ciel. On ne parle plus de quartiers à Pékin mais de districts reliés par des voies à grande vitesse. Dans la population, on se souvient que des voix s'étaient élevées contre les destructions massives des quartiers traditionnels qui ont commencé dans les années 90. La contestation d'hier n'est pas complètement finie. Fallait-il autant s'attaquer au passé de la capitale chinoise ?
Je suis He Shuzhong, le fondateur de l'ONG de protection du centre de Pékin.
La première étape, c'est de 15 ans.
La première phase de destruction dans le centre-ville a commencé dans les années 90. Ça a été la pire période, sans pitié. Il n'y avait aucune idée, aucune volonté de protéger le patrimoine. C'était de la folie. Beaucoup de gens ont été les témoins de cette phase de démolition. C'est à ce moment-là que les gens ont le plus protesté et porté plainte. Cette période est profondément gravée dans ma mémoire. Ensuite, il y a 15 ans, ils ont poursuivi les démolitions. On a vu les habitants des quartiers s'organiser pour défendre leur patrimoine.
Avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous diriez que les Jeux Olympiques de 2008 ont été le prétexte pour modifier la ville de Pékin ?
Les Jeux Olympiques ont été une bonne excuse pour détruire. Les gens demandaient « Pourquoi vous cassez les rues anciennes ?» les Hutong. Et les autorités répondaient que c'était pour accueillir les Jeux. Des bâtiments historiques ont été rasés pour construire à la place des infrastructures pour les Jeux Olympiques. Beaucoup de fonctionnaires de la ville se demandaient pourquoi il fallait protéger le patrimoine. Dans leur esprit, il fallait faire de Pékin une ville lumineuse, plus grande, neuve, qui rende les Chinois fiers de leur nation. Les fonctionnaires locaux craignaient que les visiteurs étrangers trouvent les Hutongs vétustes, mal entretenus. Pour eux, il fallait transformer à tout prix la ville et faire du neuf à la place du vieux.
Les installations sont-elles rentables ? Difficile d'avoir des chiffres dans un pays aussi opaque. Il y a 4 ans, des photos de sites abandonnés ressemblant à des terrains vagues ont beaucoup fait parler les Chinois sur les réseaux sociaux. En 2017, le vélodrome olympique reste peu fréquenté. Il sert de base d'entraînement à l'équipe d'escrime. Et quand il y a des compétitions, les billets sont gratuits pour inciter le public à venir. Le Cube, l'ancienne piscine olympique dont les coûts de fonctionnement sont énormes, a installé un parc d'attractions nautiques à 200 yuan, 30 euros par personne l'entrée. Nous sommes retournés au parc d'aviron et de canoë-kayak à Chuny, à une trentaine de kilomètres de Pékin, qui refonctionne partiellement. Le site tente de retrouver une nouvelle vie en ce jour de fête des Dragon Boats au printemps, un rassemblement de vieux bateaux chinois. Le public se masse autour du plan d'eau, une buvette est ouverte et des adolescents s'entraînent au kitesurf sur la rivière.
Je suis Ryan Song, le responsable du site au service des sports de la ville. On accueille le public pour toutes sortes d'événements. Le parc nautique sert aussi comme base d'entraînement des équipages professionnels. Certains clubs d'amateurs viennent également s'entraîner ici. Aujourd'hui, pour la fête des bateaux dragons, on a 500 participants et plus de 10 000 visiteurs.
Est-ce que c'est un endroit qui s'adapte bien justement à ce type d'événement maintenant ?
Ça fait déjà quelques années qu'on organise cette fête traditionnelle. Avant, on n'avait que des équipages de Pékin. Maintenant, on a élargi aux équipes de toute la Chine. Et on espère recevoir un jour des équipages étrangers.
Autour du Nil, les familles chinoises se baladent. Beaucoup viennent des provinces éloignées du pays. Le tourisme représenterait 30% des ressources. Les gens du quartier ont pris leurs habitudes. Monsieur Xu y emmène son fils Xiaobo, né après les Jeux Olympiques.
On vient assez souvent au Nid d'Oiseau avec mon fils, car on habite juste à côté. Il y a souvent des spectacles. Dans le quartier, il y a aussi le Palais National Omnisport où il y a eu des compétitions de trampoline et de handball pendant les Jeux. Tout de suite après les JO, il y a eu un creux, c'est certain. Mais je pense que la mairie de Pékin a depuis cette période beaucoup réfléchi à la façon de rentabiliser les installations. Là, ça fait presque 10 ans que Pékin a organisé les Jeux. La vie des Pékinois a beaucoup changé. Les revenus des habitants ont augmenté et c'est une bonne chose pour les locaux. Mais pour les gens des provinces, c'est pas évident. Et c'est cher. Toutes les installations de 2008 ne servent pas. Mais la plupart, on peut dire les deux tiers, sont utilisées. Par exemple, pour le football, ou pour le badminton, que les Chinois apprécient beaucoup. Et au Cube, il y a beaucoup de cérémonies, par exemple, comme des remises de prix.
to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Le bilan est globalement positif pour le régime chinois, aussi bien sur le plan politique que sur le plan de son image, et ce malgré la répression des droits de l'homme. En 2008, la Chine a voulu prouver qu'elle était capable d'organiser un événement de dimension mondiale. C'est grâce à ce résultat que la Chine a décroché l'organisation des Jeux d'hiver de 2022, alors qu'elle n'a aucune tradition en matière de sport d'hiver. Le régime reproduit donc le même schéma aujourd'hui en bâtissant pour les prochains Jeux des infrastructures pharaoniques. Station de ski nouvelle avec neige artificielle, ligne de TGV pour relier Pékin aux stations du Nord. En organisant les Jeux de 2008, la Chine pensait déjà au coup d'après, les Jeux d'hiver de 2022. Le sport est un outil puissant de sa soft power et de son développement économique.
À Londres, Antoine Gignot est lui aussi retourné voir ce qui reste des Jeux de 2012. Après les Jeux de l'Empire du Milieu, ce sont ceux de l'Empire de la Finance. À quelques encablures de la City, on a beaucoup parlé d'argent pour préparer le dossier victorieux. London.
En 2005, lorsque Londres remporte l'organisation des JO 2012 face à Paris, la favorite, son budget, jugé bien ficelé et réaliste, y est pour beaucoup. La partie est de la ville a été totalement remodelée autour du nouveau stade olympique de Stratford. Les transports ont été rénovés et le plus grand centre commercial d'Europe a vu le jour.
Nous sommes déterminés avec les entreprises à profiter de ce moment olympique pour essayer de booster notre économie, nos emplois et la prospérité future.
Certes, 1500 entreprises du pays se sont partagées 8,5 milliards d'euros de contrats. Certes, 300 000 emplois ont été créés, mais la plupart sont temporaires.
On ne peut pas dire qu'il y aura un effet durable des Jeux Olympiques sur l'économie du pays organisateur. L'histoire a montré que ce n'était pas le cas.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Nous sommes au cœur du parc olympique, juste devant le grand stade qui a accueilli les épreuves de 2012. Évidemment, tout autour, les immeubles ont poussé, les entreprises se sont installées, quelques grues sont encore visibles à l'horizon. Et pourtant, l'esprit sportif n'a pas disparu. Bien au contraire, au mois de juillet dernier, le stadium accueillait les épreuves des championnats du monde d'athlétisme et des épreuves en e-sport.
Je suis Jessica Lewis et je représente les Bermudes pour la course en fauteuil.
Vous étiez là pour les Paralympiques de 2012, vous revenez cette année. Qu'est-ce qui a changé et est-ce qu'on retrouve le même stade ?
Ce qui a changé, c'est qu'ils ont enlevé la terrasse du haut, je crois. Du coup, c'est un peu plus petit, mais ça reste assez génial. Et puis, ils ont construit tout le parc qui se trouve ici et qui n'était pas là avant. Le soutien qu'on a eu en 2012 était phénoménal. On avait autant de supporters que pour n'importe quel sport. C'était incroyable. Et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que c'est resté ancré dans le bâtiment.
On va rentrer à l'intérieur du stade.
Aníbal Vilches Rosales.
Aníbal Vinces Rosales, capitaine de l'équipe du Mexique.
Quand vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce que vous ressentez? When you go inside, how do you feel?
It's a strong feeling.
C'est un sentiment très fort parce que c'est dans cet endroit que j'ai concouru avec mon équipe pour la toute première fois. Ces Jeux étaient vraiment géniaux. Et 5 ans plus tard, c'est un plaisir d'être ici. Ils ont changé le revêtement de la piste. C'est une piste rapide. Et puis, il y a une autre aire d'échauffement qui est plus près du stade. Mais toutes les bonnes ondes, elles sont toujours là. Il y a beaucoup de vie, c'est super sympa.
La principale différence avec 2012, c'est l'environnement autour du stade. Avec les enfants qui jouent dans les fontaines, les familles, les poussettes, les cyclistes qui traversent le parc. À l'horizon, les grues continuent de construire des immeubles et le village olympique a beaucoup changé.
m'appelle Ornella, j'ai 28 ans et j'habite à Londres. Je travaille à Get Living London. Donc c'est une agence immobilière qui s'est implantée dans l'ancien village olympique de 2012. Dans chaque bâtiment, on a d'ailleurs une plaque qui explique aux résidents quel pays et quels athlètes habitaient dans quel bloc. Mm-hmm. Et donc voilà, on est vraiment genre au centre du village olympique en fait en ce moment même.
Qu'est-ce qui a changé finalement et qu'est-ce qu'il a fallu faire comme travaux? Et puis quand on accueille un nouveau magasin, un nouvel appartement, ça ressemble à quoi?
Ils ont dû construire des cuisines pour les nouveaux habitants parce qu'il n'y avait pas de cuisine à la base. Et toutes les vitrines de magasins pour accueillir des nouveaux commerçants dans le village.
Have you ever wished you could rent without paying a deposit? Well, from today you can. Get Living London is scrapping deposits. Go to getlivinglondon.com for more information.
Il y a un train rapide qui se rend à King's Cross Saint-Pancras en 7 minutes, 20 minutes jusqu'à Oxford Circus avec la Central Line. L'année dernière, Stratford est devenue zone 2 parce que Stratford était zone 3 en termes de transport, donc ça coûtait un peu plus cher pour voyager et se rendre ici.
Les gens qui s'installent ici viennent de Londres et viennent s'installer dans ce quartier ou c'est des gens qui viennent d'ailleurs ?
Il y a pas mal d'étudiants qui viennent de Chine, d'Italie, des quatre coins de l'Europe. On a aussi des jeunes parents qui veulent construire une famille, ne pas trop s'écarter du centre de Londres, entre guillemets.
En termes de prix ?
En termes de prix, ça commence à 380 pounds par semaine pour un appartement de 2 à 3 chambres.
Ça veut dire 420 euros, quelque chose comme ça ?
À peu près, ouais, 420 euros par semaine.
Il y a des chaînes qui se sont installées ici ?
On en a un. Sainsbury, qui est une chaîne de supermarché, parce que bien évidemment, tout le monde a besoin d'acheter du papier toilette, donc on était bien obligé de les avoir ici. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de créer une communauté, de trouver des gens qui sont indépendants, qui ont une offre qui est complètement différente de ce qu'on peut voir dans d'autres quartiers de Londres. C'est un choix délibéré.
Devant le bâtiment qui abritait en 2012 la délégation jamaïcaine, la végétation a poussé, il y a des roseaux, un parc, des bassins avec des cascades et même des libellules. La plupart des locaux sont à présent loués, transformés en restaurants, en cafés, en commerces de proximité. C'est l'un de ces restaurants que tient Eva, elle s'est installée ici il y a 2 ans.
Je suis Eva du Home Café à Londres.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce quartier-là en particulier?
On a ouvert au mois de mai 2016. On a choisi cet endroit parce que ça avait l'air vraiment bien. Avec tous les espaces verts, les appartements. Et c'était très près de Hackney, qui est un quartier très cosmopolite et vivant. Et puis j'ai réfléchi à la façon dont la ville de Londres s'étend, aux gens qui vont s'installer plus loin. Je me suis dit qu'il resterait un endroit loué ici. Le loyer? 20 000 livres par an, c'est un peu moins cher que ce qu'on payait à Hackney, où on était installé avant. Quand tu démarres ton affaire, les premières années, tu t'attends à ce qu'elle grandisse très lentement. Mais ce qui se passe ici est assez incroyable. Le week-end, par exemple, il y a beaucoup de monde, des gens du quartier, mais aussi ceux qui viennent de tout Londres pour visiter. Et puis il y a aussi les gens qui utilisent les infrastructures, comme le centre aquatique.
Hello, my name is Ed. I'm the senior marketing executive.
Bonjour, je m'appelle Ed et je suis directeur marketing du centre aquatique.
On est au milieu du centre, entre deux bassins différents, le bassin olympique avec des vitres transparentes bleues qui laissent passer la lumière, et puis de l'autre côté, deux bassins un peu plus petits avec des scolaires qui viennent apprendre à nager.
Là, en ce moment même, on a une centaine d'enfants dans la piscine qui apprennent les gestes vitaux pour nager. Et dans la même piscine, au même moment, on a aussi des clients réguliers qui viennent faire des longueurs ou leur séance de natation du jour. On est ouvert de 6h du matin à 10h30 du soir.
Alors, c'est l'ancien bassin olympique. Et puis, c'est 50 mètres. Et c'est ça qui compte parce qu'à Londres, il n'y a pas beaucoup de piscines à 50 mètres. Normalement, c'est 25 ou 33. Et puis, donc, c'est intéressant pour moi parce que j'entraîne tous les jours. Parce que je suis dans un club de water polo.
Là, vous venez de faire quoi? On vous sent un peu essoufflé.
I do entraînement, how would you say, de force. Parce qu'avec le water polo, tu dois nager avec une force soudain, physique et très très peu. Oui. You go like. So you have to. Donc moi, je fais 25 mètres douce, puis 25 mètres pouf.
Très vite.
Fort, très vite, et puis je fais ça pour 30 minutes.
My name is Ben Fletcher. I'm director of communication at Queen Elizabeth Olympic Park.
Bonjour, je suis Ben Fletcher, le directeur de la communication du parc olympique Reine Elizabeth.
Si on regarde autour de nous, on s'aperçoit que les installations, les différentes installations, restent à leur place. Et pourtant, le paysage a beaucoup changé. Est-ce que cette maquette, finalement, de ce que devait devenir le parc, vous l'aviez dès le départ, ou est-ce que ça s'est construit petit à petit?
There was an absolutely critical
On avait un plan prévu au millimètre. On a construit et dessiné le futur du parc en premier, avant de construire ce dont on avait besoin pour les Jeux Olympiques dans un deuxième temps. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait comme ça dans l'histoire des JO. En fait, on a un plan de développement du site pour les 20 prochaines années. On a construit des maisons pour 55 000 personnes et des espaces de travail pour 40 000. C'est vraiment une petite ville qu'on est en train de construire ici, en plein milieu de Londres. En fait, on a construit les infrastructures, les tuyaux de raccordement pour l'eau et l'électricité dans le sol pour des maisons qui n'existeront peut-être même pas avant 10 ans. Mais on a construit ça en premier. On a construit les routes qui les desservent, la ligne de train qui dessert le périmètre avant les Jeux. Ensuite, on a construit là-dessus le stade, les infrastructures et les installations temporaires. Du coup, quand les Jeux ont été finis, toute cette planification, toute cette matrice était là et on a pu avancer et déployer notre plan de développement très rapidement. Donc, depuis, on développe notre plan hérité des JO et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, parce que les investissements ont été faits en 2006, 2007 et pendant toute la période jusqu'à 2012. Et du coup, tout était prêt pour démarrer notre plan. C'est ça le truc qui fait de Londres une ville différente de tout ce qu'on avait connu avant. La communauté des gens d'East Village est très importante, elle a sa propre existence, de plein droit. Un peu plus tard dans l'année, après les championnats d'athlétisme et les épreuves handisport, on va passer à la prochaine grande phase de développement dans le parc en construisant le long des bâtiments de Here East. Du coup, les bureaux et les magasins de Here East ne serviront plus seulement à ceux qui travaillent sur place. Il y aura 5000 nouveaux appartements construits juste à côté. On veut que ce soit un endroit dans lequel les gens s'investissent. Ça fait partie de la vie dans le parc.
Le succès de 2012 ici, c'est aussi le changement généré par les Jeux paralympiques. Nous sommes devant l'ancien centre de presse des Jeux olympiques et paralympiques qui a été transformé en centre de recherche sur le handicap, qui est en train de devenir l'un des points de référence au niveau mondial sur le sujet. Le centre organise aujourd'hui un sommet innovation handicap. Dans la salle, il y a des représentants de tous les pays et des spécialistes, comme le professeur Nigel Harris de l'Université de Bath.
On vient juste de finir les discours de ce matin. C'était très motivant. Et on est dans la partie consacrée à l'exposition avec plusieurs stands. Moi, je représente le stand du design lié au handicap. On montre aux gens les produits qu'on a créés.
Sur le stand, on aperçoit une radio verte avec un haut-parleur, un bouton pour changer la musique. Could you just describe what is this about?
Bien sûr, c'est un lecteur de musique très simple, une boîte en plastique avec un haut-parleur et un petit couvercle. Et lorsque vous soulevez le couvercle, la musique se met en marche immédiatement. Ça a été créé pour les personnes qui souffrent de démence, pour leur permettre de se reconnecter et de comprendre ce qu'ils doivent faire pour mettre en route la musique. Pour moi, c'est merveilleux d'être ici, de marcher à travers le parc olympique, de voir le stade, la grande sculpture et de voir que ces bâtiments sont utilisés comme hub digital tout autour de ce centre consacré à l'innovation en matière de handicap.
Bonjour, je m'appelle Victoria Austin et je dirige la section héritage des Paralympiques au sein du parc dans l'est de Londres. On continue à travailler avec le bureau du maire et le gouvernement à Londres pour transférer le savoir qu'on a acquis ici. Par exemple, quand on a construit le parc olympique, une partie du travail consistait à transformer d'anciens bâtiments, voir ce qu'on pouvait faire ou pas. Et on a réussi à éviter des guéguerres entre partis politiques, c'était très important. On avait un maire travailliste, puis un maire conservateur, des travaillistes au gouvernement, et tous ont soutenu notre travail. C'était un vrai symbole. Ce qu'on a appris, c'est qu'on peut désigner des personnes handicapées comme meneurs et essayer d'être créatif dans les solutions. En décembre, on va organiser le Rassemblement international de la Croix-Rouge avec le Make-a-Thon. 15 jours avec des gens qui viennent du monde entier pour inventer des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et puis vous savez quoi? On adorerait que Paris ait les Jeux parce qu'on discute déjà avec le Brésil, on est en négociation avec Rio, on travaille avec Tokyo aussi, et je crois que ce serait fantastique de pouvoir transférer une partie de notre savoir à une capitale voisine.
Jeux olympiques, que reste-t-il aux villes hautes? C'était un reportage de Dominique André à Pékin, Béatrice Duguay à Athènes et Antoine Gignot à Londres. Mixage Basile Bocquer, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. À la semaine prochaine.